Il est 7h sur France Culture, le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Et dans ce journal, nous reviendrons sur cette arrestation de Fariba Adelra en Iran. Franck Madvon a joint l'un de ses collègues et amis, le chercheur Jean-François Bayard.
En Serbie hier, Emmanuel Macron a réussi à retisser des liens qui s'étaient distendus entre Paris et Belgrade. Mais sur le sujet du Kosovo, nous l'entendrons, la mésentente est toujours d'actualité.
Et puis en France, les députés doivent s'exprimer sur la ratification ou non du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, un traité en mouvement qui peut changer les réglementations actuelles selon des experts. Fariba Adelra est donc toujours détenue en Iran ce matin. Cette éminente anthropologue franco-iranienne, spécialiste, vous l'avez dit Benoît, de l'islam chiite au CERI, docteur en anthropologie de l'EHESS. Elle a donc été arrêtée alors que les tensions internationales entre Téhéran et les puissances occidentales sont au plus haut. En visite en Serbie, Emmanuel Macron a exprimé ses inquiétudes et dit avoir demandé des clarifications à son homologue iranien, Hassan Rohani. L'arrestation de cette chercheuse de 60 ans qui était arrivée en France à la fin des années 70 remonterait au 5 juin dernier. Elle serait détenue dans la prison d'Evin, dans le nord de la capitale iranienne. Les précisions de Franck Madvon.
Fariba Adelra vit entre l'Iran et la France pour ses travaux de recherche. Elle était en Iran depuis mars. Le 5 juin, 15h, son ami le chercheur Jean-François Bayard reçoit un dernier message, puis... le silence.
Je lui ai donc écrit le 8 juin un email auquel elle m'a répondu de manière un petit peu étrange le 12 juin, ce qui m'a laissé dans un sentiment mitigé. J'étais à la fois rassuré et un peu étonné. Dans ce message, elle me disait qu'elle n'avait pas de connexion internet parce qu'elle était dans le désert.
Ensuite, aucune nouvelle. Fariba Adelra ne rentre pas comme prévu le 25 juin. Jean-François Bayard alerte les autorités françaises qui obtiennent confirmation de son arrestation.
Il est possible que cette arrestation s'apparente à une mauvaise manœuvre assez cynique de la part de certains éléments du régime pour négocier entre guillemets au mieux avec Paris sans véritablement prendre la mesure de l'effet dévastateur que cela a sur la réputation et l'image du régime.
Fariba Adelra ne serait pas maltraitée, mais cela ne rassure pas ses proches.
On peut toujours craindre un accident cardiaque ou autre chez une personne qui, toute vigoureuse qu'elle soit, n'est pas non plus toute jeune. Et les conditions de détention à Evin sont très rudes de notoriété publique.
Autre motif d'inquiétude, l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité. Téhéran estime ne pas avoir à rendre des comptes pour une Iranienne.
Et vous reviendrez largement, Benoît, sur cette arrestation et plus généralement sur le sort des chercheurs iraniens avec vos invités. En Serbie, Emmanuel Macron, lui, était reçu hier par son homologue, Aleksandar Vučić, une visite sous le signe de l'amitié franco-serbe, et ce malgré un contexte de tension lié d'une part au difficile processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne et d'autre part aux relations entre Belgrade et son ancienne province, le Kosovo, dont l'indépendance n'est toujours pas reconnue par la Serbie malgré les appels au dialogue de Bruxelles. Hier, des milliers de Serbes sont venus écouter le discours du chef de l'État français qui a tenté de les rassurer et a débuté son discours en serbe. Le reportage pour France Culture d'Élise Delève.
Pansuska, nastazve dubuje.
Un très bel effort.
La foule applaudit de bon cœur et quand elle se relâche, un membre du protocole serbe est là pour jouer les chauffeurs de salle. Certains se sont déplacés spontanément, d'autres ont reçu un SMS les encourageant à venir saluer le président français. Un président qui n'hésite pas à aborder la très délicate question du Kosovo.
C'est ce combat du compromis entre la Serbie et le Kosovo. C'est un combat difficile.
Étrange réaction positive du public qui applaudit Emmanuel Macron sans savoir ce qu'il est en train de dire. Le président s'est éloigné de son texte et le passage n'est pas traduit sur les écrans géants. Pour Radmila, il n'y a pas de compromis possible.
Le peuple serbe et l'État ne reconnaîtront jamais l'indépendance du Kosovo. Et si l'Union européenne nous refuse l'adhésion, car nous ne changeons pas d'avis, tant pis, nous n'avons pas besoin de l'Europe.
Le Kosovo, c'est notre âme, le berceau de notre pays, ajoute un homme qui passe, accentuant le gouffre qui sépare Bruxelles et Belgrade. D'un côté, des institutions qui cherchent une solution, de l'autre, un peuple qui refuse l'idée même de renoncer à une région qu'il considère toujours sienne. Pour Zoran, le processus d'adhésion est devenu beaucoup trop long.
La Serbie doit faire partie de l'Union européenne. Je ne comprends pas les attentes de l'Europe. Nous avons rempli toutes les exigences. Je sais que la Serbie doit se réformer, mais justement, une adhésion pourrait nous aider à le faire. Nous montrer que nous sommes soutenus et qu'on fait partie de la famille européenne, pour le meilleur et pour le pire.
C'est justement l'inverse de ce que veut Bruxelles. Pour les 27, il faut que la Serbie se réforme avant d'être intégrée.
Élise Delève est pour présider la Commission européenne une femme qui depuis deux semaines déjà tente de convaincre les nouveaux eurodéputés qu'elle est la mieux placée pour le poste. Les élus vont donc décider ce soir s'ils élisent ou non Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Un vote qui ne souffrira pas de seconde chance. Hier, l'actuelle ministre allemande de la Défense, proche d'Angela Merkel, a formulé une série de propositions, notamment celle de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
7h06, le journal d'Anne-Laure Chouin sur France Culture, où il est toujours question d'Europe. Demain, ce sont les députés français qui auront à se prononcer en faveur ou non de la ratification du CETA, ce traité commercial entre l'Union européenne et le Canada.
Et les pressions sont nombreuses pour qu'ils ne le ratifient pas. Une coalition de 70 organisations, notamment, appelle cet après-midi à un rassemblement devant l'Assemblée nationale. Parmi les critiques contre ce CETA, le fait que cet accord est le premier accord de libre-échange vivant, c'est-à-dire qu'il pourra évoluer et faire évoluer les réglementations actuelles. Pour Mathilde Dupré de l'Institut Veblen, les députés français ne peuvent pas savoir exactement pourquoi ils votent. Écoutez-la au micro de Marie Vienno.
C'est la première fois face à un accord qui est vivant, dont le contenu pourra bouger, et la question du contrôle démocratique sur les décisions qui vont être prises dans ces instances, elle reste très opaque et assez peu rassurante. Il y a une instance sur, par exemple, la biotechnologie, une autre sur les règles sanitaires et phytosanitaires, une autre sur les services financiers. Enfin, il y a comme ça tout un ensemble d'instances spécialisées, et puis après, il y a un comité mixte qui, lui, a même le pouvoir d'amender certaines parties de l'accord. Et il nous avait été dit une fois par un représentant de la Commission européenne dans une réunion au Trésor que, par exemple, le comité mixte pourrait modifier les contingents de viande à droit nul que l'Union européenne a concédé au Canada sans avoir à repasser par un processus de ratification complet devant toutes les instances démocratiquement élues de l'Union européenne. Donc on voit que c'est un mécanisme qui peut permettre de faire changer la nature de certaines dispositions de l'accord de façon assez conséquente. On a vu aussi pendant la première année d'application du CETA, le Canada a déjà mis à l'ordre du jour du comité sanitaire et phytosanitaire des discussions sur les limites maximales de résidus. On sait que, par exemple, sur les pommes de terre, le Canada a des limites maximales de résidus pour des produits qui sont interdits dans l'Union européenne parce que c'était des néonicotinoïdes et donc des tueurs d'abeilles. Le Canada a des limites 10 fois supérieures à celles qui sont pratiquées dans l'Union européenne. Et donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas exporter leurs pommes de terre et ils cherchent à faire évoluer ces règles. Donc là, il y a des vraies batailles offensives qui sont menées par le Canada et avec un vrai risque de nivellement par le bas.
Mathilde Dupré de l'Institut Veblen. C'est un nouveau coup dur judiciaire pour les victimes de l'amiante. Les juges d'instruction du pôle santé publique de Paris ont rendu hier un non-lieu dans le dossier Eternit, du nom du premier producteur d'amiante-ciment dans les années 90 et première entreprise visée par une plainte pour homicide et blessures involontaires. Les magistrats ont estimé qu'il était impossible de dater l'intoxication des anciens salariés d'Eternit et qu'on ne peut donc pas déterminer quels étaient les responsables et les réglementations en vigueur à une date inconnue. Michel Parigot est vice-président de l'AVA, l'association des victimes de l'amiante. Il souhaite lui trouver une autre façon de saisir la justice.
L'analyse qu'on a fait déjà depuis un certain temps de cela, parce que ça fait quand même maintenant plus de 5 ans que les magistrats instructeurs ont arrêté les instructions, c'est-à-dire qu'ils ne font plus aucun acte d'instruction. C'est une volonté délibérée de ne pas faire. Donc on a décidé qu'on ferait autrement et qu'il y aurait un procès pénal en le faisant par citation directe. C'est-à-dire qu'en faisant une citation directe, on contourne l'instruction. Au lieu que ce soit des juges d'instruction qui cherchent les preuves, c'est nous qui cherchons les preuves et nous les amènerons au tribunal. Plus d'un millier de victimes se sont jointes à cette citation et donc elle sera déposée début septembre. Dans un cadre normal, une citation directe, c'est quelque chose de rapide. Mais là, on est dans une citation tout à fait exceptionnel. Ça ne s'est jamais fait dans un cadre comme celui-là. Une citation directe, normalement, c'est quand on a toutes les preuves, c'est une situation facile. Là, on est sur une affaire d'une complexité extraordinaire. Et puis, en plus, on a bien évidemment les pouvoirs publics et le parquet contre nous, donc ils mettront des obstacles procéduraux. À aucun moment, on ne lâchera. On est devant une catastrophe sanitaire qui fait plus de 3000 décès par an, et les derniers rapports de Santé publique France montrent que le nombre de victimes continue à augmenter. On doit avoir un procès pénal.
Des propos recueillis par Florence Turm. Le temps de ce mardi, du soleil partout, voilé ce matin sur la moitié ouest et sur la moitié est. Cet après-midi, les températures comptaient au minimum de 8 à 22 degrés ce matin, de 22 à 33 degrés cet après-midi.